Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès durant environ une heure. Je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis très très honorée de recevoir sur le Gratin Philippe Croizon. Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez retrouver Philippe et lui faire un petit coucou via son site internet, Philippe Croizon, donc croizon.com, mais aussi via ses divers réseaux sociaux où il est actif, et en particulier Instagram, Twitter et LinkedIn, que je vous mets dans les notes de l'épisode, et également sur le blog du Gratin, www.le-du6gratin.fr. Alors, qui est Philippe Croizon? Voici une phrase que j'ai lue sur sa bio, sur son site internet. Il nous dit « Je suis mort le 5 mars 1994. J'affirme que ma vie s'est arrêtée ce jour-là, puis une autre a commencé. » Pour vous raconter l'histoire, ce jour-là, à 26 ans à peine, Philippe est touché par une ligne électrique de 20 000 volts pendant qu'il travaille sur son toit à démonter son antenne de télé. Il ne subira pas une ni deux, mais trois décharges électriques. Ses membres alors sont entièrement carbonisés et il se réveille quelques jours plus tard, amputé des quatre membres. Vous pouvez imaginer que l'épisode va être évidemment très émouvant, aussi très dur, mais je vous préviens, Philippe est aussi impressionnant de vitalité, d'humour, c'est assez fou quand on y pense. Et après une période de 7 ans de dépression suite à son accident, Philippe retrouve enfin goût à la vie, notamment grâce à la rencontre de son épouse Susanna. Il a un déclic et décide alors de reprendre son destin en main et d'accomplir un exploit. La traversée de la Manche à la nage. Avec son épouse Susanna donc et leur équipe, il s'entraînera durant 2 années entières. Et le 18 septembre 2010, il traverse la Manche à la nage en 13h et 26 minutes. Un exploit. Ce jour-là, Philippe nous prouve que tout est possible. Quand on rencontre une personne comme Philippe et qu'on entend son histoire, on peut évidemment que relativiser avec une puissance assez folle tous les petits aléas de notre propre vie. Si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, justement, vous serez témoin d'un moment qui est vraiment particulièrement touchant, j'ai trouvé, où Philippe nous parle de sa relation avec son fils après l'accident et comment, justement, ils avaient dû se réapproprier. Enfin, durant cet épisode, nous avons parlé de la mission de Philippe, devenir un symbole du dépassement de soi, pour que tous ceux qui souffrent sachent que pour eux aussi, tout est possible. Personnellement, je pense que ces mots ne s'appliquent pas du tout qu'aux personnes qui ont vécu un grave accident. Au final, la souffrance est protéiforme, une rupture, un abandon, un échec aussi. Et ces mots résonneront, je pense, pour beaucoup. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Philippe Croizon. Bonjour Philippe, bienvenue sur le Gratin.
Bonjour, bonjour à tous.
Je suis ravie de vous accueillir, Philippe. Je vous remercie d'avoir accepté de m'accorder du temps, même si c'est à distance. Et si ça vous va, pour ceux qui connaissent pas encore l'histoire, est-ce que vous pourriez commencer, s'il vous plaît, par me raconter tout simplement comment s'est passé votre accident? Quel âge vous aviez? Ce qui s'est passé exactement? Je sais que vous avez raconté cette histoire 1000 fois, mais une fois de plus, voilà, il y a beaucoup de personnes malgré tout.
Écoutez, on va faire 1000 et une fois.
Voilà, 1000 et une fois. Je veux bien. Mais je sais que vous la racontez avec énormément d'émotion, évidemment. Et voilà. Je pense que c'est évidemment important de commencer par là.
Exactement. Vous savez, je fais à peu près, avant le confinement, avant ce qui nous arrive, je faisais à peu près une conférence tous les deux ou trois jours.
Bah donc, oui, vous avez l'habitude.
J'ai un petit peu l'habitude, rassurez-vous, ça ne me fait pas de chagrin, tout va bien, bon, j'ai accepté.
Tout va bien.
Et donc, cet accident est arrivé le 5 mars 1994. C'est en voulant apporter au mien le meilleur qui m'est arrivé le pire. Hein. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Mm-hmm. Un petit bébé allait arriver, la maison était trop petite, il a fallu déménager. Et sur le toit de ma maison, il y avait une antenne de télévision et je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu la récupérer absolument. Et derrière cette ligne électrique, il y avait une derrière cette antenne, pardon, il y avait une ligne électrique de 20 000 volts
que vous aviez, que vous connaissiez, enfin voilà, mais que vous n'avez pas vu.
Pardon.
Vous saviez qu'elle était là, vous l'aviez vue, mais vous avez.
Ouais, je l'avais vue et je me suis dit, ça passe, il y a pas de raison quoi. J'avais à peu près prévu toute la sécurité, sauf que j'avais pris une échelle en aluminium. Bon, je suis pas un bon bricoleur, ça vous le savez maintenant. Mais donc j'ai pris une échelle en aluminium, j'ai déboulonné mon antenne et je voulais la faire basculer vers l'avant et malheureusement elle était un petit peu trop lourde, elle a basculé vers l'arrière et là j'ai heurté la ligne de 20 000 volts.
Oh là là.
Le courant est rentré par les mains et ressorti par les jambes. Et pendant cet accident, à la régie d'électricité, ils ont fait une grosse bêtise et ils ont cru que c'était une branche qui était sur la ligne et ils ont voulu faire sauter la branche. Et pour faire sauter cette branche, ils ont rallumé trois fois le courant. Donc j'ai eu trois fois la décharge de 20 000 volts. Donc ça a brûlé, enfin c'était plus que brûlé, c'était carbonisé, mais le courant est rentré par les mains et ressorti par les tibias. Et là où le courant rentre et là où il sort, ça a brûlé, enfin c'était plus que brûlé, c'était carbonisé. Et donc pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les quatre membres. C'est là où démarre une nouvelle existence, une nouvelle vie, où il va falloir beaucoup beaucoup d'années pour refaire surface.
Bah, c'est sûr. À l'époque, Philippe, quel âge aviez-vous ? Vous aviez 27 ans, c'est ça vous disiez ?
J'avais 26 ans, ouais, 26 ans. Et aujourd'hui, ça fait 26 ans que j'ai eu l'accident, donc je suis à 50-50.
C'est ça. Et avant ça, du coup, est-ce que vous pourriez me dire quelle était votre vie, quelle était votre profession ? Donc, je comprends que vous aviez un petit garçon, vous étiez marié, mais
exactement.
Juste pour qu'on comprenne, enfin, voilà, d'où vous venez.
Ouais, j'étais pas mon éducation faisait que j'étais pas un élève très très studieux. Je pense que j'ai aussi une dyslexie sévère parce que j'ai un petit peu de mal avec le français.
D'accord.
Et donc, voilà, j'étais plutôt au fond de la classe, moi, à m'occuper du chauffage pour que mes petits camarades n'aient pas froid. Mmh. Et ensuite, on m'a mis un jour, on m'a dit tiens, tu seras apprenti charcutier, sauf que je ne voulais absolument pas faire, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai été papa assez jeune, et donc j'ai fait mon service militaire, je me suis engagé, et ensuite je suis rentré dans une fonderie du Poitou, où là j'ai repris les études. Je voulais pas rester comme ça dans
donc métallurgie
ma vie,
donc, en réalité.
Ouais. Mmh. Et pendant trois ans, je travaillais la nuit. Le matin, je dormais. L'après-midi, j'allais à l'école. Et au bout de 3 ans, j'ai eu mon diplôme. Mm. Et quelques mois plus tard, j'ai eu mon accident.
Et à l'époque, c'est ça, parce qu'en fait, je pense qu'on réalise pas forcément au-delà de la douleur, etc. Mais votre vie a été complètement changée et vos plans de vie, je sais pas si vous en aviez à l'époque, mais finalement, ont été complètement altérés. Vous vous rappelez à l'époque, finalement, c'était quoi le plan? C'était de se marier, d'avoir des enfants, de continuer dans ce métier-là. Vous vouliez, maintenant, vous êtes devenu un grand sportif, mais finalement, avant, vous vouliez faire quoi? Vous vouliez faire quoi quand vous étiez plus petit?
On va dire que, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais un plan de vie classique, est-ce que c'est-à-dire métro, boulot, dodo, avoir une maison, avoir une famille, être heureux avec tous ces petits univers-là, quoi. Donc, mais tout ça a basculé le 5 mars 1994, donc il m'a fallu 7 ans pour revenir à la vie. Vous savez, quand vous rentrez dans l'univers du handicap ou qu'il vous arrive une tuile, hein, n'importe laquelle, hein, on a les fameuses 5 phases à franchir, hein. C'est Elisabeth Kubler-Ross, hein, qui était psychiatre, qui avait développé ce principe. C'est-à-dire que d'abord, la première phase, c'est la négation. Hein. On refuse ce qui nous arrive. D'ailleurs, on l'a très bien vécu avec le confinement. On a vu beaucoup de Français passer ces 5 phases.
C'est vrai.
D'abord, la négation, on refuse ce qui nous arrive avec les fameux « pourquoi ?»« Pourquoi ceci ?»« Pourquoi cela ?»« Pourquoi moi ?» Il n'y a pas de réponse au « pourquoi ?» Les « pourquoi ?» ils sont là pour vous harceler.
Ouais.
Après, vous avez la phase de négociation. Une fois que tout le monde est parti, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous négociez. Moi, en l'occurrence, c'était entre vivre ou mourir. Et donc, voilà, là aussi, encore une nouvelle phase. Après, il y a la phase de dépression, la fameuse phase de colère et la phase du retour à la vie, l'acceptation. Les 5 phases que je viens de vous expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie.
Oui.
Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie. Moi, j'ai réussi à franchir ces 5 phases. Grâce à ma famille et mes amis, j'ai eu la chance d'avoir un entourage autour de moi qui m'a épaulé, qui m'a soutenu.
Bien sûr. Et puis, on va voir, vous avez justement réussi à complètement vous reconstruire. Et bon, on en parle avec le livre aussi, mais vous avez redécidé de vivre une vie complètement différente. Juste pour continuer un tout petit peu sur l'accident, parce que c'est tellement fou, évidemment, et c'est tellement, je pense, éloigné de la réalité de 99,9% des gens. Au moment où ça arrive, donc moi j'imagine douleur atroce, sans doute vous êtes même plus conscient, etc. Mais est-ce que vous vous rappelez de la première pensée quand vous émergez à nouveau? Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous comprenez, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé?
Alors le jour de l'accident, il y a eu plusieurs étapes. La première décharge, c'est un arrêt cardiaque. Donc, je vois ma vie défiler à une vitesse folle. Hein. Un film très, très court, hein, 26 ans. Et les meilleurs moments de ma vie, les images sortent de ce flux. C'est comme s'il y avait un film en accéléré. Oui. Et les meilleurs moments, il y a des images qui sortent et qui passent devant mes yeux et qui repartent dans le flux. Donc, que ce soit la naissance de Jérémy, mon garçon, ma grand-mère que j'aimais tant. Hein. Je pense que ma grand-mère était un pilier, c'était un rock dans ma famille. Et puis voilà, donc et après, deuxième phase, je reviens à moi. Donc le courant, il rallume le courant une deuxième fois, je reviens à moi. Et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et là, je commence à me sentir partir. Donc je dis au revoir à ceux qui sont en bas. Je dis au revoir à Muriel, mon ex-femme. Et je dis au revoir à ceux qui sont là. Je leur dis que je les aime, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir lutter. Mmh. Et là, il rallume le courant une troisième fois. Mmh. Et là, c'est là où je prends feu, quoi. C'est là où je... Mmh. Et qu'il y a un voisin qui a eu un réflexe extraordinaire, ce monsieur. Il a mis des bottes en caoutchouc, des gants. Il a pris un extincteur qui était dans le restaurant d'à côté, il est monté à l'échelle et il m'a éteint à deux reprises. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Vous voyez, c'est pour vous dire que... Alors, il y a aussi un témoignage de la part des gendarmes et des témoins. Moi, j'en ai pas le souvenir de ce passage-là. Il paraît que je criais après quelqu'un, « Non, vous me prendrez pas, je vous dis que je veux pas partir, c'est pas maintenant, je reste là, je partirai pas maintenant, je veux rester là. »
C'est dément, tout simplement. Et donc, vous vous réveillez ensuite à l'hôpital, évidemment. Et donc là, vous n'avez plus de membres. C'est ça, vous vous réveillez, en fait, après l'opération.
Faut savoir qu'entre-temps, les pompiers m'emmènent, ils m'emmènent sur le terrain de foot. Il y a l'hélicoptère qui arrive, il ne veut pas se poser parce que c'est la nuit est tombée. Et il le fait malgré l'interdiction, on m'emmène. Pendant le vol, je fais deux arrêts cardiaques. Le médecin urgentiste me réanime avec du courant. Donc, comme quoi, le courant était bénéfique dans ce coup-là. Et arrivé à Tours, on m'endort au service des brûlés et on m'endort. Et j'ai une petite phase de réveil, mais de quelques secondes. Et là, derrière la vitre stérile, il y a mon père, ma mère, mon frère et mon ex-femme qui sont là. Et maman me pose une question. Et à ce moment-là, est-ce que c'était un restant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même, où j'avais compris déjà ce qui m'était arrivé et je voulais leur faire du bien, les rassurer. J'en sais rien parce que moi, j'ai pas le souvenir de cette anecdote. C'est mes parents qui m'ont raconté cette anecdote. Maman me pose la question. Elle me dit « Ça va, mon garçon ?» Et d'après eux, j'ai eu le temps de répondre, j'ai dit là, je crois que je suis cuit-cuit. Et je me suis endormi pour 2 mois. Et effectivement, quand je me réveille au bout de 2 mois, je me rends compte qu'il manque 2 bras et une jambe. Et là, je vais crier, je vais hurler, je vais pleurer, ce qui est un réflexe normal et humain.
Bien sûr.
Mais il restait la jambe gauche. Alors, je me suis accroché à elle comme une sorte de bouée de secours. C'est peut-être mon côté très optimiste. D'ailleurs, il y a un journal économique en France, le journal Ecoréseau, m'a élu l'homme le plus optimiste de l'année 2017. Bon, c'était dans la catégorie électron libre, ça m'a plutôt rigolé.
Ils ont de l'humour, ça, faut pas mal le prendre.
Et donc, je m'accroche cette dernière jambe et un jour, il m'explique qu'on va pas pouvoir la sauver et là, je vais vraiment m'effondrer, ouais. Je vais même demander pardon à la mort. Je veux dire, j'ai lutté contre toi le jour de l'accident, mais tu peux pas me laisser là aujourd'hui. Quelle va être ma vie sans bras et sans jambes? Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes à 26 ans? C'est juste pas jouable au départ.
Ouais. Et alors justement, vous m'avez parlé des 5 phases, c'est très intéressant justement pour se remettre. Alors, je veux pas faire de corrélation qui soit, trop extrapolée, parce que je peux imaginer que c'est difficilement comparable, mais néanmoins, quand on a un moment très très difficile dans sa vie, un décès d'une personne qu'on aime, du deuil, etc.
Exactement.
Voilà, finalement, on vit un peu ce genre de choses similaires. Et donc vous me dites, vous êtes passé, comme tout le monde, entre guillemets, sur ces 5 phases, ça vous a pris combien de temps?
Tu sais, je rebondis à ce que vous venez de dire. Il y a pas de degré dans la douleur. Il y a vraiment pas de degré. On peut pas dire par rapport à vous, j'ai eu moins de souffrance ou plus de souffrance. Il faut surtout, mais vraiment pour tous ceux qui nous écoutent, il ne faut jamais dire ça. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire par rapport à vous, je peux pas me plaindre. Je dis mais pourquoi tu n'as pas le droit de te plaindre? Mais pourquoi tu n'aurais pas le droit de te plaindre par rapport à moi? Par exemple, je prends l'exemple tout bête, hein, quelqu'un qui est à côté de moi et qui bricole. Qui veut planter un clou avec un marteau, il loupe le clou, il se tape le pouce. Parce que je suis à côté de lui, il va pas avoir mal.
Oui.
Non, mais voilà, c'est le truc qu'il ne faut, il ne faut jamais dire ça. Les 5 phases, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et comme je l'ai dit, les Français l'ont vécu avec cette phase de coronavirus, avec ce qu'on a vécu pendant 2 mois et ainsi de suite. Et là, on va rentrer encore dans une nouvelle phase économique. Donc, ce qui va dire qu'on va encore repasser encore ces 5 phases.
Bien
et moi,
sûr.
Ce qui m'inquiète dans ces 5 phases, et là, on commence à le voir, c'est la colère des gens, la phase de colère. Et tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la colère qui prend le dessus.
Bah, et d'ailleurs, le parallèle est fort parce que c'est le cas effectivement avec ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est le cas aussi. Moi, je parlais hier à un entrepreneur qui, malheureusement, bah voilà, a dû mettre la clé sous la porte, hein, concrètement, et était justement dans cette phase de colère dont vous parlez. Donc, je pense effectivement, ce passage entre ces différentes phases, bon, même si une fois de plus, moi, j'aurais quand même tendance à dire que, voilà, pour certains, c'est plus dur que pour d'autres, mais il est là pour tout le monde. Et donc, vous, concrètement, ça a mis un certain nombre d'années. Ce que j'aimerais comprendre, c'est à quel moment est-ce que vous avez décidé justement d'aller sur cette dernière étape, après la colère, après la dépression? Après tout ce que vous avez vécu, parce que bah voilà, vous tout d'un coup, enfin en plus c'est vraiment toute la vie qui change quoi. Qu'est-ce qui a fait que à un moment donné vous avez dit non mais en fait ça suffit maintenant, j'ai encore le droit de vivre et je peux m'éclater et je peux être optimiste et je peux faire des choses extraordinaires parce que c'est quand même ça qui est dingue. Souvent ce qui est très difficile c'est cette dernière étape au final. À quel moment est-ce qu'on a ce déclic quoi? Est-ce que vous ça a été
le
un déclic?
Retour à la vie, ouais, le retour à la vie, l'acceptation et de dire ok. Je suis comme ça, c'est-à-dire que pendant des années, je me réveillais le matin, j'étais la personne en situation de handicap. J'étais dans ma souffrance. Mais ça a duré 7 ans. Pendant 7 ans, pour passer ces 5 phases, il m'a fallu 7 ans.
Quelle a été la phase la plus longue pour vous, si c'est pas indiscret?
La dépression. La dépression, c'est elle qui a duré le plus longtemps. C'était une dépression en dents de scie. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'ai voulu mettre fin à mes jours à 2 reprises. Je suis revenu, je suis reparti. Bah, c'était vraiment et surtout j'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je savais pas comment affronter le monde extérieur. Donc je me suis renfermé sur moi-même. Donc j'habitais en plus en milieu rural, donc j'étais vraiment à la campagne. Donc pendant 7 ans, comme je le dis très bien dans mes conférences ou dans le livre, hein, j'ai regardé la télé. C'est-à-dire que je me levais le matin vers 14-15 heures. Et je me couchais vers 3-4 heures du matin. Et pendant 7 ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. J'ai pratiquement pas bougé. J'ai végété dans un canapé.
Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, non, mais ça, voilà, une fois de plus, ça suffit. En fait, c'est pas qui je suis.
Mon épouse est partie. Et c'est là que je suis rentré dans la grosse, grosse phase de colère. Ma phase de colère est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Donc, quand mon épouse m'annonce qu'elle va partir, et en plus, je la comprends parce que dans le personnage que j'étais, était un personnage méchant, était un personnage qui en voulait à la terre entière.
Ouais, un peu aigri, quoi.
Et qui voulait pas s'en sortir, quoi. Qui était vraiment dans cette phase difficile. Et pourtant, il avait un soutien monstrueux autour de lui. Et elle me dit, je vais partir. J'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais. Et là, je rentre dans ma phase de colère terrible. Je vais vouloir mettre fin à mes jours. Et déjà, à l'époque, je voulais nager. J'avais pris ma voiture. J'avais mis mes prothèses de marche et de bras. Et pour me donner un peu de courage, j'avais été chez l'épicier de mon village et j'ai acheté une bouteille d'alcool. Moi qui ne bois jamais, ça a été très très vite. J'ai bu quelques gorgées d'alcool. Déjà, j'ai demandé à mon épicier d'ouvrir la bouteille parce que je ne pouvais pas l'ouvrir tout seul. Et puis, il m'a demandé de la poser sur le siège passager de ma voiture. Il est sympa, mon épicier. Et je me suis garé avec ma voiture au bord de la rivière. J'ai bu quelques gorgées d'alcool. Et je suis sorti de la voiture et je me suis dirigé vers la rivière. Mais marcher avec des prothèses quand on n'est pas bourré, c'est pas facile.
Oui, alors là, du coup...
Quand on est bourré, on va pas loin. Donc, je suis tombé avant d'arriver à la rivière. On m'a emmené en milieu hospitalier.
Vous avez réussi finalement à aller jusqu'au bout, juste parce que vous étiez bourré. Donc, c'est finalement, on peut remercier l'alcool.
Parce que je suis quelqu'un d'assez jusqu'au boutiste dans mes objectifs. Mais là, j'avais pas réussi mon objectif. Donc, j'ai joué un rôle pendant une semaine dans ce milieu hospitalier. Et on m'a libéré. Et la nuit même, on m'a libéré. J'ai recommencé les bêtises mais médicamenteuses cette fois-ci. Et après, on m'a gardé, et c'est ce que j'explique dans mon livre « Plus fort la vie », c'est j'ai travaillé avec une infirmière psy. Je parle pas de la psy, parce que la psy, elle était là pour me faire une ordonnance de médicaments. Mais l'infirmière psy, pendant 1 an, elle venait me voir pendant 2 fois par semaine, et elle a fait un travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, et elle m'a permis de m'ouvrir aux autres, de comprendre que je pouvais redémarrer une vie. Et c'est là que je me suis inscrit sur un site de rencontre 3 ans après la séparation de mon ex-femme. J'ai pris mon courage j'ai pris mon courage et je me suis inscrit sur un site de rencontre et c'est là que j'ai rencontré Susanna. Ouais. Et c'est là que tout a démarré, ma nouvelle vie a démarré. Ouais. L'amour m'a donné des ailes. Enfin là, en l'occurrence, il m'a plutôt donné des palmes. Mais c'est l'amour qui m'a reconstruit. Ouais.
Donc, bah, vous avez commencé à recroire dans les autres aussi, au fait que vous étiez plus peut-être unique dans votre malheur seul, mais vous aviez des personnes qui vous aimaient. C'est fou comme histoire, parce que quand on y pense, Je pense que là, ça a été l'amour, mais finalement, cette sortie, on voit assez longue, où vous avez d'abord commencé en fait par voir un petit peu plus de positif grâce à cette infirmière, et ensuite, donc finalement, le salut, est-ce qu'il vient des autres? Est-ce qu'il vient justement de l'extérieur pour vous, Philippe?
Ouais, complètement. Je parlais du soutien. Dans ma vie, il n'y a jamais de je, J-E, c'est on. On avance ensemble et on réussit ensemble. Mais pour comprendre pourquoi j'ai végété comme ça pendant si longtemps, enfin, c'était difficile. C'est-à-dire que mon père a fait une grosse erreur monumentale. Et là, beaucoup de chefs d'entreprise vont se reconnaître, hein, des chefs d'entreprise, des managers qui se sentent seuls au monde quand ils sont dans la difficulté. Mon père avait dit à tout le monde, à ma famille et mes amis, ceux qui vont voir Philippe à l'hôpital de Tours en milieu stérile, je veux que personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on lui montre qu'on est une famille forte. Qu'on va être des amis soudés. Et donc, tout le monde passait devant moi, personne ne pleurait. J'étais là, mais tout le monde s'en fout alors. Personne ne pleure. Et de mon côté, je me suis dit, mais moi aussi, il faut que je les protège. Il faut pas que je pleure devant eux, il faut pas que je craque. Donc, on a joué ce rôle, amis et famille, pendant 7 ans, de tout va bien, je vais bien.
Ouais.
Personne n'exprimait sa douleur, personne ne disait ce qu'il avait ressenti le jour de l'accident. Personne ne disait ce qu'il avait ressenti quand on m'a enlevé mes bras et mes jambes. Tout le monde se protégeait. Et quand j'ai explosé 7 ans après, quand j'ai fait ma tentative de suicide, mon père a explosé, ma mère a explosé, mon frère, mon ex-femme, même mes petits garçons ont explosé. Tout le monde a eu besoin d'un coup de main 7 ans après l'accident. C'est là la grosse erreur. On n'est pas seul. Même un chef d'entreprise aujourd'hui qui tient la barre de son entreprise et qui est en difficulté, je pense qu'il faut qu'il en parle à tout le monde. Il faut qu'il en parle aux salariés.
Bien sûr. Et puis qu'il s'entoure, effectivement.
Voilà, c'est une carte pour lui, quoi.
Et alors, vous rencontrez Susanna vous changez complètement de vie, vous remettez donc à vivre quoi réellement et à sortir de cette un peu léthargie finalement que vous aviez vécue pendant 7 ans. Et si je me trompe pas, donc vous mettez à la nage assez activement. Ensuite, vous devenez complètement inarrêtable, c'est-à-dire que maintenant, c'est traversée de la Manche, record de profondeur en plongée, Dakar. Enfin voilà, on a suivi vos aventures, mais c'est complètement fou. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous pousse à vous dépasser à ce point? Parce que finalement, entre reprendre une vie normale, d'une certaine manière, avec une épouse, voilà, et puis carrément devenir recordman dans plein de domaines, devenir un exemple, devenir un symbole, finalement, pour une cause, il y a quand même un écart significatif. Qu'est-ce qui, dans votre tête, à un moment donné, s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pris une décision? Vous avez dit, je veux devenir la meilleure version de moi-même.
J'ai pris la décision de vivre déjà, de vivre et de reprendre goût à la vie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour qui m'a donné cette envie de redémarrer. Et j'avais ce vieux rêve, mais vraiment un vieux rêve lointain dans le fond de mon cerveau, de vouloir traverser la Manche à la nage. Pour comprendre la genèse de cette traversée, quand je me réveille à l'hôpital, que j'ai plus de bras et plus de jambes, déjà je pleure beaucoup, je crie et un soir je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et elle allume la télévision, on est un vendredi, et je regarde Thalassa et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation. Et je vois cette fille qui se bat contre les éléments, son équipe qui l'encourage. Et là, je suis capté par les images, je fais « Waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi, je traverserai pas la Manche à la nage ?» Et ça y est, c'est rentré dans ma petite tête. Et quand j'ai rencontré Susanna, un jour, je fais un saut en parachute. C'est mes enfants qui m'avaient offert un saut en parachute à 4200 mètres d'altitude. À ce moment-là, j'ai cru qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Et là, il y a plein de journalistes qui sont venus et il y a une journaliste de France 3 qui m'a dit « Voilà, vous avez fait ça, c'est quoi votre prochain rêve ?» Je dis « J'ai une envie forte, j'ai envie de traverser la Manche à la nage.
Ouais. »
Et l'aventure commence et je dis à Susanna « J'y vais, mais seulement si tu me dis oui. » Et par amour et par ignorance, comme moi, elle a dit oui. Il faut savoir que j'avais 40 ans, je n'avais jamais fait sport de ma vie. J'étais gras comme un lardon, enfin j'étais un sportif canapé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et je monte une équipe pour transformer le bonhomme et réaliser mon rêve. Et en 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation pour arriver à l'objectif le 18 septembre 2010, réaliser mon rêve, traverser la Manche à la nage. Et surtout, il faut savoir que la traversée de la Manche, ça s'appelle l'Everest de la natation.
Oui.
Il y a seulement 10% des valides qui viennent tenter leur chance. Tous les ans, il y a environ entre 500 et 700 personnes par an qui viennent tenter leur chance pour traverser la Manche. Et il n'y en a que 50 qui réussissent.
Ah ouais, c'est monstrueux. Vous avez mis combien de temps pour la traverser?
J'ai mis 13h26 dans une eau environ à 14 degrés. Donc,
c'est
et j'arrive sur Cap Griné en pleine tempête et vous allez voir qu'il y a le destin qui joue avec moi. On est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi sur les 12. Et moi, j'arrive à 21h26 à droite du Cap Griné. Il y a un nageur valide qui arrive en même temps que moi à gauche du Cap Griné. Et toute ma famille, mes amis, tous ceux qui avaient fait le voyage, Il y avait environ une centaine de personnes qui étaient là. Mmh. Et ben, ils ont tous couru à gauche du côté du valide. Tout le monde s'est trompé. Et il y en a que deux qui sont partis à l'envers de tout le monde. D'ailleurs, leur grand-père, mon père, les a fâchés. C'est mes deux enfants, Jérémy et Grégory. Ils ont dit, non, papa, il est à droite. Et ils sont partis à l'envers de tout le monde. Ils sont partis avec deux amis et ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Et après 13h26 minutes de nage, en pleine nuit, dans la tempête, j'ai entendu « Papa, papa, papa !»
Mais vous deviez être en transe totale, quoi.
Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion et j'ai crié, j'ai hurlé. Et on m'a repêché, on m'a mis à bord du bateau. Et là, j'ai vu Susanna en larmes, mon entraîneur en larmes. Toute l'équipe qui était là, tout le monde pleurait à bord du bateau. Et là, j'ai dit « j'ai pas traversé la Manche. On a traversé et on a réussi, quoi. »
Pour l'entraînement, du coup, vous disiez, mais 2 ans d'entraînement, enfin, ça devait être absolument monstrueux. Vous avez jamais, à un moment donné, quand même, presque eu envie d'arrêter? Enfin, parce que là, on a l'impression, quand on vous écoute, que ce rêve était tellement fort que finalement, c'était presque un destin pour vous et qu'il n'y avait rien qui pouvait vous arrêter. Mais en même temps, je peux imaginer que ça devait être hyper dur, que vous deviez en avoir marre, que vous deviez être crevé, surtout si vous n'étiez pas sportif. Enfin, déjà, de base, la natation, c'est quand même pas un sport simple. Mais en plus, là, cette dose-là, alors qu'on vient pas d'un secteur sportif, qu'on n'a pas l'habitude, et évidemment, avec votre handicap. Mais qu'est-ce qui vous a fait tenir? C'est juste ce rêve? C'est l'équipe? C'est le fait de l'avoir annoncé? C'est le fait d'avoir des personnes qui vous aiment, qui vous soutenaient et qui étaient là à vos côtés?
Il y a beaucoup de tout ça. Mais surtout, ce qui m'a fait tenir, déjà, j'avais ce rêve. Donc, ce rêve était ancré en moi. Et très souvent, il y avait des craquages. Hein. Bon, déjà, le corps a craqué à de multiples reprises. Hein. J'ai souvent été arrêté par le kiné pour remettre en état les tendinites, les jambes, les épaules, le dos. Enfin, faut savoir, je faisais 35 heures de natation par semaine et 6 heures de gainage par semaine. Donc, c'est du sport à outrance.
6 heures de gainage de... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous étiez 6 heures de gainage?
Ouais. Au plus fort de l'entraînement, hein. J'étais à 35 heures de natation et 6 heures de gainage, ouais.
C'est dément. Donc, même au niveau alimentaire, vous avez dû complètement changer votre rythme de vie, parce que quand on fait 35 heures de natation...
35 heures de natation par semaine, ouais, on devient une planche, je suis raide comme un bout de bois et je suis prêt à affronter tout ce qu'on va mettre. Enfin, moi, quand je m'entraînais au lac de Saint-Cyr, je nageais du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Des fois, il faisait 0 degré, tombait de la neige, je nageais pendant 7 heures dans le lac. Je me suis entraîné en Charente-Maritime avec les gendarmes, avec des conditions de vent de force 5 à 6, avec des creux de plus de 2 mètres. Il fallait que je connaisse toutes les conditions de mer et que je connaisse toutes les conditions possibles et imaginables, que mon corps soit prêt à affronter cette épreuve très dure. Et ce qui m'a vraiment tenu, c'est la confiance que les gens m'ont accordée. Bien sûr, il y en a plein que j'ai appelé. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont dit non. Mais il y en a qui ont dit oui. Et à partir du moment qu'il y en a qui disent oui, ils t'accordent une confiance extraordinaire. Je dirais que 99% des gens n'y croyaient pas. Et le 1% qui restait, c'était mon équipe. Et là, à partir de ce moment-là, non seulement moi, je ne veux pas me décevoir, je ne peux pas décevoir Susanna, mais je ne peux pas décevoir tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors ensuite, après ça, bah, du coup, vous avez encore plein d'autres tours, on va dire, dans votre arc, avec la plongée. Donc, je crois que vous me disiez que vous étiez passionné de plongée plus jeune. Ensuite, vous mettez à la course automobile avec le Dakar. Donc, en fait, vous continuez finalement maintenant, parce que là, finalement, on avait moins le rêve. Le rêve initial, vous nous l'avez raconté, c'était avec la traversée de la Manche. Donc, qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à vouloir en permanence vous dépasser? Qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'est-ce que vous recherchez au travers du sport? C'est quand même fou. Vous pourriez vous dire, c'est bon, j'ai traversé la Manche, maintenant, je peux être tranquille.
Non, non, ce qui me porte aujourd'hui, c'est l'envie. L'envie, je ne me pose pas de question, est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? J'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Je vais rechercher les bonnes personnes, les bons ingénieurs. Après, le plus dur dans toutes mes aventures, c'est de rechercher les sponsors, de rechercher les partenaires. Il n'y a rien de plus difficile que ça, mais c'est l'envie qui me porte. Tu sais, j'avais révélé une enquête l'autre jour, parce que je travaillais au magazine de la santé sur France 5, j'ai fait une chronique pendant 6 ans, et on a posé une question aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. Mais la réponse est violente, elle est trop dure à entendre. Moi, j'ai des envies, j'ai envie de les mener. Et alors, j'ai entendu des gens dire, ah ouais, mais pour toi, c'est facile. Mais qu'est-ce qui est facile? Il n'y a rien de facile.
Au contraire.
Il n'y a rien de facile. Il faut monter une équipe, il faut monter une aventure. Ouais, c'est l'envie qui me porte. L'envie de rendre mes proches heureux, l'envie que je sois heureux et l'envie de vivre ma vie, quoi. Point barre. J'ai pas cherché à être un symbole. C'est après la traversée de la Manche. On a reçu tellement de messages, tellement de mails, de courriers, de, d'appels en disant mais merci, mais je dis mais merci de quoi, j'ai juste réalisé mon rêve. Vous savez que pour la traversée de la Manche, normalement aucun média n'était prévenu. Il y avait que mon petit journal régional et mon France 3 Poitou-Charentes qui étaient au courant. Et c'est le fait que j'ai eu des problèmes en Angleterre, qu'il y a eu la tempête, que les médias internationaux ont appris qu'il y avait un mec qui n'avait pas de bras et pas de jambes qui allait traverser la Manche. Sinon, j'en avais parlé pratiquement à personne. Et c'est malgré moi que c'est devenu un truc complètement fou. Et après, l'histoire de relier les 5 continents à la nage, c'est parce que je voulais pas me séparer de mon équipe. Tu sais, quand j'ai fini à traverser de la Manche, il y a eu 2 sentiments qui m'ont attaqué, 2 sentiments très très forts. Une, la joie d'avoir réussi et d'être avec mon équipe. Et la deuxième, c'était la tristesse. Donc, c'était un yo-yo entre la joie et la tristesse. Et à un moment donné, la tristesse l'a emporté en disant « Merde, c'est fini, quoi. »
Oui, c'était la tristesse, en fait, que ça soit terminé, que le rêve soit touché du doigt, finalement. C'était ça ?
C'est ça. J'aime bien pour le toucher du doigt. Pour
oui, bon, désolé. C'est pas très malin.
Non, non, attention, parce que là, je rebondis à chaque fois. Hein. D'ailleurs, mon dernier livre, il s'appelle « Pas de bras, pas de chocolat ».
C'est
des
terrible, parce qu'il y a un nombre d'expressions, quand même. Enfin bon.
Là, il y en a des tonnes. Donc voilà, ce que je disais, c'est l'envie qui me porte et l'envie, faut pas que la peur soit un frein de nos envies. Parce que voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup trop de gens dans notre société qui ont des rêves, qui ont des envies, et tout de suite derrière, ils se posent la mauvaise question, qu'est-ce que je risque ?
Ouais. Où est-ce que la peur du risque.
Ils s'enlèvent 80% de chances d'y aller.
Mais vous, Philippe, juste vous avez jamais eu la peur du risque comme ça, je sais pas, la peur peut-être de la mort même, la peur d'échouer, la peur de... Moi, je suis complètement d'accord avec vous et je pense que finalement, de toute façon, si on prend pas de risque, on ne fait jamais rien de sa vie et surtout, on passe à côté d'un nombre de choses exceptionnelles. Mais voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est clairement le nœud du problème pour énormément de monde de se dire, en fait, ils ne font jamais les choses tout simplement parce que, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de, je sais pas, une cause externe, ils ont peur de la maladie, etc. Et donc, vous, c'est quelque chose qui, finalement, vous a jamais traversé. Vous avez... C'était quoi, finalement, votre plus grande peur ? Ou c'est quoi, votre plus grande peur ?
Je crois que, comme la plupart des gens, j'ai été élevé dans le « fais attention ». J'ai été élevé dans le « fais attention ». Ma mère est quelqu'un de très angoissé, qui a très, très peur de l'avenir, qui voilà, il faut faire attention à tout. Et j'ai été élevé dans cette façon de vivre. « Fais attention, ne cours pas, mon petit. Fais attention, tu vas tomber. Ne monte pas sur la chaise. Fais attention, c'est dangereux. » Mais c'est la pire des éducations qu'on puisse avoir. Après, on a des personnages qui ont peur de tout et qui n'osent pas s'investir et qui n'osent pas aller vers l'autre. Donc, j'ai réussi à faire sauter ce bouchon. Je dirais pas à cause, mais peut-être grâce à mon accident, j'en sais rien. Mais j'ai fait sauter ce bouchon-là du fait attention. Et aujourd'hui, j'ose les choses. J'ouvre les portes. Même s'il y a marqué interdit, c'est pas grave. Je tente ma chance et on verra ce qui va se passer. Donc voilà, il est là le message le plus fort. C'est oser, quoi. Oser, tenter votre chance.
Il y a quand même quelque chose qui vous fait peur parfois, Philippe, ou maintenant vous êtes même au-delà de ça ?
Non, honnêtement, il y a un truc qui me fait peur. C'est quelque chose auquel je pense très très souvent. Je l'ai rencontré une fois, donc je la connais. C'est la mort. La mort est là. Elle rôde autour de moi. Donc, pourtant, je suis un mec qui a eu énormément d'accidents. Justement, on est en train d'écrire mon one man show avec Jérémy Ferrari, et on était en train de répertorier l'autre jour tous les accidents que j'ai eus où je m'en suis sorti. Donc, c'est assez impressionnant.
Vous êtes un peu incroyable quand même. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais en fait, moi, j'aurais jamais la force mentale de faire autant de choses parce que je peux avoir envie, je peux avoir un rêve, je peux ne pas avoir peur. Mais par contre, avoir la force mentale, cette discipline, cette envie de se dépasser, c'est quelque chose qui paraît presque fou, je pense, pour beaucoup. Vous, alors je comprends qu'il y a le rêve, mais si on reste un petit peu sur ce sujet encore, est-ce que vous avez finalement des conseils peut-être que vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent sur comment faire pour, peut-être via de la visualisation, via des plannings tout simplement, enfin, comment faire pour susciter un maximum la force mentale ? Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur parce que quand vous faites vos conférences, vous en parlez beaucoup, mais est-ce que finalement il y a une méthode d'une certaine manière, Philippe Croizon, sur le sujet ?
Eh ben écoutez, vous voulez que je vous révèle mon secret, c'est ça. Hein.
Mais c'est pour la bonne cause, Philippe.
Mais vous allez voir que mon secret, il est très très simple. Mon secret, il est très simple. Pour être honnête, je vais vous révéler quelque chose. Je suis un vrai feignant. Je suis un vrai feignant. Je suis comme tout le monde. Je suis comme tous les citoyens. Au premier de l'an, je dis, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Et effectivement, le premier jour, je vais y aller. Le deuxième jour, et le troisième, et la troisième fois, et la quatrième, j'ai trouvé une excuse. J'ai trouvé une excuse pour pas y aller. Et après, c'est fini. Je n'irai plus jamais de l'année. Et quand je vous dis que je suis un vrai feignant, c'est que quand je monte une aventure, par exemple, ou la traversée de la Manche ou le Dakar ou n'importe quoi, je monte une équipe. parce que j'ai besoin de cette équipe, j'ai besoin de, de leur encouragement, j'ai besoin de leur force, j'ai besoin d'avoir un coach sportif qui va m'engueuler, qui va me dire « tu continues, c'est dans la douleur que tu progresses, c'est pas dans la facilité ». Si tu fais quelque chose dans la facilité, ça veut dire que tu n'apprécieras même pas le résultat auquel tu veux aller. La douleur n'est qu'une information. Continue, mon gars. Souffre. Donc voilà, j'ai besoin de ces gens-là. J'ai besoin de mon entraîneur de natation. J'ai besoin de mon préparateur physique. J'ai besoin de tous ces gens-là, de prendre leur expérience et qui m'encouragent et qui me portent. Et surtout qui me portent. C'est l'équipe qui me porte. Sans eux et sans Susanna. Enfin, Susanna fait partie de l'équipe. Je n'aurais jamais réalisé tout ce que j'ai réalisé. Je n'aurais jamais eu la force de pouvoir aller jusqu'au bout de tout ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à la fois la confiance que les gens m'ont accordée et l'énergie de mon équipe. Et quand je vous parle de mon équipe, il n'y a pas de jeu. C'est quand moi, je n'allais pas bien, mon équipe m'a remonté le moral. Et c'est arrivé, ça je l'explique dans mes conférences, mon équipe n'allait pas bien, mon équipe voulait arrêter pour me protéger, pour ma sécurité. C'est moi qui remontais le moral de mon équipe. C'était vraiment un moment de partage très fort. Et vous savez, tout le monde retient la traversée de la Manche à la nage. Moi, le plus beau de toute cette aventure, c'est les 2 ans de préparation. Oui. C'est ce qu'on a vécu avec l'équipe pendant 2 ans. C'est pas les 13h26 minutes de natation à la fin. Non. C'est les 2 ans de travail pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et pour être honnête, tout le monde avait peur. Oui. Le kiné avait peur, le cardiologue avait peur, tout le monde avait peur dans l'équipe. Mais tout le monde s'encourageait les uns les autres.
Ouais, la force du groupe et puis la capacité à savoir s'entourer, évidemment. Et effectivement, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est hautement comparable à ce qui peut arriver, en tout cas dans le milieu de l'entreprise, c'est certain.
On peut parler également aussi de la résilience, parce que dans mon parcours de vie, c'est la résilience qui me porte aussi. C'est-à-dire quand des fois, j'allais pas bien et que Susanna, moi je craquais, Susanna craquait, on était tous les deux à pleurer, même à hurler. Hein, une fois, j'ai cassé la porte du vestiaire de piscine tellement j'étais en colère après moi.
Vous ne pouviez plus, quoi.
J'arrivais pas à nager correctement. Et je regardais Susanna, je lui disais, mais il faut y arriver, parce que si on réussit, on va changer notre vie. On vivra plus sous le seuil de pauvreté comme vivent toutes les personnes en situation de handicap, malheureusement, dans notre pays encore aujourd'hui. Donc, il faut qu'on y arrive. On va changer notre vie. Et ça vous porte.
Philippe, j'aimerais parler aussi maintenant de votre capacité à transmettre et d'exemplarité, parce qu'aujourd'hui vous participez, alors pas en pleine période de coronavirus, mais habituellement, donc vous le disiez, à un nombre incalculable de conférences par an. Je crois que j'ai vu que c'était entre 100 et 150 conférences par an, donc c'est incroyable sur le dépassement de soi. Et vous êtes devenu finalement un peu, voilà, enfin, finalement, sans vraiment l'anticiper, un vrai porte-parole ou en tout cas un symbole pour le handicap. Je voulais savoir finalement d'où venait ce besoin de partage. Pourquoi en fait cette envie, voilà, d'aller notamment dans des entreprises, partager, parler de votre parcours et finalement à quel point ça doit être gratifiant, ça je peux l'imaginer, de voir en fait que vous pouvez aider des personnes. Mais si jamais on prend un peu de recul aujourd'hui, finalement qu'est-ce que ça vous fait quand vous partagez, qu'est-ce que vous avez aussi peut-être envie de faire passer comme message, en particulier aux personnes qui nous écoutent?
Alors, déjà, une petite erreur, je ne représente pas le handicap en France, hein. Il y a des associations pour ça et ainsi de suite. Moi, parce qu'il y a tout type de handicap, hein. Il y a le handicap physique, il y a le handicap mental, et il y a le handicap de la vie, hein. Ceux qui n'osent plus, ceux qui ne savent plus où ils en sont, qui sont perdus dans leur parcours de vie, il y a les difficultés du monde de l'entreprise, voilà, tout ça. Moi, ce que j'aime réaliser ces conférences, parce que c'est un moment de partage. Mon maître mot aujourd'hui dans ma vie, c'est de partager. Et quand je suis sur scène, je partage avec les gens. Et quand je vous parle d'un moment de partage, enfin, tous ceux qui l'ont vécu, peut-être que certains de vos auditeurs l'ont déjà vécu avec moi, c'est un moment de partage intense. Pendant une heure, ils se déconnectent totalement et pendant une heure, ils vivent avec moi, ils vivent l'aventure. Et il y en a certains qui craquent, hein, j'ai des gens aussi qui sont tombés dans les pommes. Ça m'est arrivé quelquefois. Mon record, c'est 3 en une soirée. 3 malaises vagales en une soirée. Mais c'est un moment de partage intense. Donc, et à la fin, je reste avec eux et on discute et voilà. Et j'aime ça. Honnêtement, j'aime ça. Pour moi, c'est un kiff total. J'aime partager, quoi. J'aime partager. Et à chaque fois que je parle de mes aventures, je les revis. Je les revis sur scène et j'ai envie de montrer le message du tout est possible, que l'impossible c'est juste une seule personne, c'est juste nous, c'est nos peurs, c'est nos hésitations, il est là l'impossible. Donc j'aime à dire que tout est possible, mais vraiment tout. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai pu mener comme aventure ou comme envie que j'ai pu lancer, j'ai atteint mes objectifs. Donc ça veut bien dire que tout est possible.
Vous avez des personnes qui sont venues vous voir et qui vous ont dit que vous aviez changé leur vie ou que vous leur aviez fait vraiment prendre conscience de certaines choses, parce que je peux imaginer quand on a un symbole aussi fort, une histoire aussi forte, vous devez forcément avoir énormément de personnes qui ont été hyper inspirées parce que vous êtes, tout simplement.
Il y en a beaucoup de messages, même des chefs d'entreprise, hein, où les entreprises n'allaient pas très très bien et que il fallait un petit coup de main pour faire comprendre qu'on pouvait redémarrer ensemble. Hein. C'est le problème du groupe, de faire comprendre à l'ensemble que voilà, l'entreprise ne va pas bien, qu'on peut redémarrer, qu'on peut y arriver ensemble, que ça va être difficile, mais on peut comme je disais tout à l'heure, le chef d'entreprise ne doit pas être seul à la barre du bateau, quoi. C'est collectif.
Ouais.
Et donc voilà, c'est ce que j'aime faire partager. Effectivement, j'ai reçu des messages, mais ça c'est le côté difficile, parce que j'ai envie de transmettre cette énergie. Comme l'autre jour, il y en a qui m'a dit depuis que vous avez pris 3 décharges de 20 000 volts, vous êtes distributeur d'énergie positive.
ça m'a beaucoup plu.
et après voilà, il y a 1000 messages dans ma conférence et chacun prend le message qu'il a envie. Et si ça peut aider une personne ou 10 personnes ou 1000 personnes, mais tant mieux. Et qu'après, il le partage au sein de sa famille, qu'il le partage avec d'autres personnes. Montrer que c'est jouable, quoi. Et surtout, je dis aux gens, quand vous vous réveillez le matin, n'allumez pas la radio, n'allumez pas la télévision, prenez votre petit déjeuner et allez au boulot, ou faites ce que vous avez à faire dans votre journée, mais ne vous pourrissez pas la vie avec ces informations négatives qu'on vous met dans la tête et qui va vous pourrir et qui va vous empêcher d'avancer surtout. Parce qu'on va vous mettre de la peur dans la tête.
C'est clair. Bah ça, vous savez, moi, ça fait 2 ou 3 ans même que j'ai complètement arrêté de regarder les infos. Et en fait, tout le monde me dit, mais si jamais tu regardes plus les infos, comment est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se passe? Mais je peux vous garantir, moi, je suis chef d'entreprise au-delà du podcast, que en fait, ces informations viennent toujours à moi. C'est-à-dire que j'ai toujours des personnes qui vont me dire, le confinement, si vous voulez, j'étais au courant, j'avais pas besoin de regarder les infos pour être au courant. En fait, la terre entière en parlait. Donc, en fait, sincèrement, ce qui est vraiment important, ça transparaît, quoi. On n'a pas besoin de passer sa journée sur BFM à regarder en boucle ce qui se passe, effectivement, qui est très anxiogène. Ça, je suis complètement en phase avec vous. Je voulais aussi vous demander alors je sais que vous n'êtes pas porte-parole, hein, vous avez une raison de le rectifier, mais plus un symbole, c'est ce que je voulais dire. Malgré tout, j'imagine qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui sont en situation de handicap, ou en tout cas qui ont des personnes aussi dans leur entourage qui sont dans cette situation, ou des personnes peut-être qui portent un regard sur le handicap, qui ne savent pas comment vraiment le gérer. Est-ce que vous voyez des erreurs, des mauvais choix, des choses en fait que vous regrettez peut-être sur les autres, fréquentes, pour les personnes qui sont soit touchées par le handicap, soit les personnes qui portent un regard sur le handicap? Ce que je veux dire par là, c'est peut-être que beaucoup de personnes qui ont un handicap fort, ont peur ou sont dans une phase où ils n'ont plus envie de croire à rien ou ne pensent plus que tout est possible. Et donc vous, évidemment, vous êtes un très bel exemple qui nous prouve le contraire. Mais quelles sont finalement les erreurs, entre guillemets, les plus fréquentes que vous voyez chez les personnes qui subissent un handicap?
L'erreur principale, c'est l'erreur que j'ai commise pendant de nombreuses années, c'est que je n'osais pas demander un coup de main. J'avais peur de demander un coup de main.
Mais vous
et
dit
après, j'ai appris qu'un coup de main, c'était pas un moment de déshonneur. C'était un moment de partage. C'était vraiment un moment de partage. J'en veux pour exemple. Par exemple, si je suis à Paris, il y a un restaurant, il n'est pas accessible, mais il y a un menu qui me plaît. Il y a 3-4 gars qui passent sur le trottoir, je vais leur demander un coup de main pour passer ces marches. Et moi, je suis au restaurant, j'ai le smiley. Et les 3 gars qui m'ont donné un coup de main, ça a duré quelques secondes. Mais regardez-les repartir sur le trottoir, ils ont un smiley. Ils ont passé un petit moment de partage, un moment de partage très court, mais ils ont vécu un moment de partage. Ils ont donné un coup de main à quelqu'un. Et ça, c'est gratifiant. C'est gratifiant pour eux et c'est gratifiant pour moi aussi. Donc, le plus gros message, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller vers les autres. N'ayez pas peur de demander un coup de main. Osez, quoi. C'est ça, c'est oser. Oser aller vers les autres.
Ouais,
et vous allez voir que c'est hyper bénéfique et ça fait vraiment du bien.
Oui, ce que je comprends, c'est qu'en fait, au début, on peut avoir honte, on peut penser que c'est honteux, que les gens vont pas vouloir. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que non seulement les gens sont ravis de le faire, mais en plus, ça crée un lien entre vous et c'est finalement un bon moment, quoi.
Exactement, ça peut être un lien très très court ou un lien très long, ça dépend de la personne à qui vous allez demander un coup de main. Mais surtout, c'est un moment, prenez-le comme un moment de partage. Et ça, vous savez, attention, il y a 2 choses. Il y a le côté masculin et le côté féminin. Et malheureusement, ce côté masculin où le demander un coup de main, ça devient un déshonneur. Parce que je suis le mâle de la famille, je suis le mâle dominant. On a été éduqués aussi comme ça, malheureusement. Hein. Donc, Donc, demander un coup de main, c'est comme une sorte de déshonneur. C'est être désavoué, quoi. Je ne suis plus bon à rien. Et ça, je l'ai vécu pendant de nombreuses années. Et j'en ai souffert. J'en ai souffert terriblement et j'en ai fait souffrir ma famille, mes enfants. Donc, après, à partir du moment que j'ai compris que c'était moi qui étais dans l'ignorance, qui étais dans la bêtise, et que j'ai osé demander un coup de main aux autres, mais je me suis libéré, mais d'une façon incroyable. Et ça, il faut vraiment le faire.
Et à l'inverse, pour les personnes alors qui elles-mêmes ne souffrent pas d'un handicap, mais ont quelqu'un, par exemple, dans leur famille, dans leur entourage, leurs amis, qui ont un handicap, parfois j'ai la sensation qu'elles ne savent pas vraiment comment réagir, elles ne savent pas vraiment comment interagir avec cette personne. Est-ce que la personne a changé ou pas ? Enfin, je pense que c'est assez difficile quand même aussi pour l'entourage. Est-ce que là aussi, vous auriez un conseil peut-être à donner sur ce sujet ?
C'est très, très, très compliqué. Chaque être humain réagit différemment à l'adversité. Il y a ceux qui nous aiment. Il y a ceux qui nous aiment et qui sont perdus. Et vous avez le lambda de tous les jours que vous croisez et qui, lui aussi, est un peu désemparé. Celui qui vous aime, au départ, et je l'ai dit tout à l'heure, il va vouloir vous protéger. Il va vouloir faire attention. Parce qu'il vous aime très, très fort. Mmh. Et des fois, il peut être maladroit. Et là, nous, on peut peut-être mal l'interpréter, sa maladresse. Et c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué. Là, on parle de psychologie, Là, c'est vraiment très, très dur. D'ailleurs, tiens, un exemple flagrant. Mon petit garçon, Jérémy, quand j'ai eu mon accident, il avait 7 ans. Je suis sorti du milieu hospitalier, il avait 9 ans. Et quand je sors du milieu hospitalier, il savait plus interpréter papa. Il faut savoir que j'étais un papa très, très joueur, très bricoleur. Je m'amusais avec lui très souvent. On allait faire du vélo et tout. Et quand papa arrive, il sait plus l'interpréter. Et surtout, on lui a dit, tu fais attention à papa, tu lui fais des câlins et ainsi de suite. Donc lui, il est rentré dans cette boucle-là. Et à un moment donné, je voyais bien qu'il n'osait pas me parler, qu'il était fugant. Et je lui ai dit, Jérémy, viens voir papa. Et je l'ai monté sur mes genoux, sur mon fauteuil roulant électrique, et il y avait une ferme, pas très très loin, avec une mare au canard. Et j'ai pris mon fauteuil et j'ai foncé dans la mare au canard avec mon fauteuil. Et là, on a rigolé tous les deux comme des perdus, et je dis, tu vois, papa, il n'a pas changé, mon garçon. Je dis, je t'aime. Et là, Et là, on a redémarré, tous les deux. Comme si de rien n'était. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer mon petit garçon.
Oui, il a compris que vous n'aviez pas changé au fond.
Exactement. Je n'ai pas changé. Je le dis à tout le monde. Je dis, je m'appelle toujours Philippe. On m'a enlevé 4 morceaux, effectivement, mais je suis toujours le même personnage. Mm. Ça a été dur pendant des années. Peut-être que j'étais un personnage méchant, peut-être un personnage con, mais je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Je suis toujours le même personnage, bout en train, qui aime la vie, qui aime la croquer et qui a redémarré sa vie. Et après, comme je disais tout à l'heure, il y a des personnages dans la vie de tous les jours, au travail, qui savent pas comment interpréter la personne en situation de handicap. Vous savez, très souvent, quand je fais des conférences en entreprise pour la question du handicap, on a une semaine par an sur l'accès de l'emploi des personnes handicapées dans l'entreprise. Et je dis au chef d'entreprise, je dis, mettez-moi 3 managers à côté de moi. Et dites à vos 3 managers, ça y est les gars, je vais embaucher une personne handicapée. Mais les 3, ils vont se regarder en disant, ouais, c'est génial, bravo patron, on est avec vous, hein. Et là, ils vont dire, mais dans le bureau de Martine, ou dans le bureau de Mohamed, parce que moi, mon équipe, elle est complète. J'en veux pas, moi, de ton handicapé. Est-ce que si moi, je le prends dans mon équipe, est-ce que je vais perdre des parts de marché? Est-ce que je vais être moins compétitif à cause de lui? Le manager, il a un réflexe humain normal, parce qu'on nous a vendu du handicap égale Cosette et Thénardier, égale non compétent, pendant des décennies. Et aujourd'hui, on n'imagine pas qu'on a des gamins qui ont été à bac plus 3, bac plus 5, et qui attendent qu'une seule chose, ce qu'on m'a accordé pour traverser la Manche ou réaliser mes aventures, la confiance qu'ils méritent. Juste la confiance qu'il mérite. Faire sauter ce cliché monstrueux qui nous pourrit la vie, et déjà faire sauter ce bon dieu de mot de handicap. Le mot handicap aujourd'hui est un mot péjoratif, c'est un mot qui nous freine. Moi j'aime à dire aujourd'hui que je suis une personne capable autrement. Je suis capable de faire la même chose que vous, je conduis ma voiture, je suis autonome dans ma maison, je suis autonome dans tout ce que je veux réaliser grâce à la technologie ou au système D. Donc je suis une personne capable autrement. Je peux faire les choses. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer auprès des personnes en situation de handicap et surtout auprès des personnes en situation de valide. Vous voyez, par exemple, quand je vais au restaurant, le serveur, il arrive, il donne une carte à tout le monde. Et moi, ma carte, il l'a dans le dos. Et il sait pas, il se dit, si je lui donne, il va croire que je me moque de lui. Et si je lui donne pas, il va croire que je me moque. Donc le mec, il est en panique. Et je le regarde, je dis, je sais lire. Et ça lui fait du bien, cette petite phrase. Donc il me donne la carte.
Ouais, je vois. Non, mais c'est sûr que l'interaction, enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup de maladresse, comme vous disiez, de personnes qui savent pas interagir, quoi, tout simplement. Et c'est
parce qu'on n'a jamais été confronté au handicap. Jamais. Il y a que depuis la loi de 2005 où les enfants en situation de handicap vont en école ordinaire. Là, le changement va arriver bientôt. Il y a encore une dizaine d'années. Et là, ce changement de regard sera vraiment, vraiment efficace. Mais encore aujourd'hui, nos générations n'ont pas été confrontées au handicap, donc ils en ont peur. Et vous savez que les deux mondes ont peur. Le monde des personnes en situation de valide et le monde des personnes en situation de handicap dans le monde de l'entreprise se regardent en ayant peur, en disant « Merde, comment je vais faire, moi ? Comment j'y vais ?» Il est là la difficulté. Donc, il faut rassurer tout le monde. Et tout à l'heure, je vous parlais du mot « handicap ». Excusez-moi, je m'enflamme, mais quand on parle du mot « handicap », quand je fais des conférences en entreprise sur le dépassement de soi, sur les objectifs, le travail d'équipe, le tout est possible, la salle est pleine, on refuse du monde. Quand je fais la semaine de l'emploi des personnes handicapées,
oui, personne.
Et qu'il y a le mot « handicap » dans le titre d'invitation, il n'y a personne qui vient. Enfin, il n'y a pas grand monde. Dans une salle de 500, on a 50 personnes. Et c'est pour ça que je dis aux entreprises, surtout, ne mettez pas le mot « handicap ». Parlez-moi de personnes capables autrement. Parlez-moi de tout est possible. Et là, on va remplir la salle. Et là, on va leur expliquer.
Je vois. Bah, écoutez, je vous remercie pour le partage parce que c'est assez, enfin, en tout cas, c'est très lumineux. On comprend très bien ce que vous voulez dire. Et je pense qu'il y a un grand chemin à parcourir encore. Mais au moins, avec des exemples comme les vôtres, je pense que ça va donner, je pense, des idées aussi à beaucoup d'autres personnes dans cette situation.
Comme le mien, comme tous ceux qui sont bien dans sûr. Les stades paralympiques, tous ceux qui sont dans le dépassement de soi, et surtout parce qu'ils ont envie de le faire. Ils ont envie d'entendre la Marseillaise et de voir le drapeau bleu, blanc, rouge se lever. C'est comme France Télévisions qui fait un travail extraordinaire sur les Jeux paralympiques. On a le programme Cours Vestiaire sur France Télévisions. On a tous les téléfilms ou les films au cinéma qui cartonnent. Dès qu'il y a un téléfilm ou un film au cinéma, ça fonctionne. Le minimum, c'est entre 700 et 1 million de spectateurs. Ça veut dire que ça fonctionne. Les gens commencent à ne plus avoir peur.
Oui. Ouais. Bah, ils commencent à le voir un peu plus dans leur quotidien et donc à se rendre compte que c'est juste une autre manière de vivre. Mais c'est pareil.
Une personne handicapée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Martine, c'est Christophe, c'est Jean-Luc, c'est Mohamed, c'est Fatima. C'est d'abord quelqu'un. Et accessoirement, effectivement, il est en situation de handicap, mais il est capable autrement.
Ouais. Ça ne change pas qui il est. Philippe, pour terminer, j'ai toujours à la fin du podcast un espèce de petit crible de questions. C'est des questions vraiment sur vous, sur votre manière de penser, si vous l'acceptez. Et notamment, la première question que je vais vous poser, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, alors peut-être au-delà de l'accident, évidemment, mais encore que, je ne sais même pas si c'est ça que vous me diriez, mais s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment?
Je ne sais pas, franchement... J'ai eu un parcours de vie. Mon enfance était plutôt cool. Monde ouvrier, hein. Donc, mais bon, ça va. Enfin, moi, j'ai été aussi élevé par mes grands-parents, donc j'ai des souvenirs extraordinaires avec ma grand-mère. Peut-être l'école. L'école avoir été pris en main, peut-être mieux à l'école et d'avoir peut-être un autre parcours de vie. Et après, il y a eu cet accident. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'aime ma vie. Ouais, j'aime ma vie d'aujourd'hui. Elle est riche, elle est pleine, je rencontre plein de gens, j'ai tourné un film au cinéma, j'ai une chronique sur France 5, enfin, tout ce que j'imaginais pas avoir dans ma vie, enfin, j'en sais rien, enfin, je la vis pleinement et très souvent, on me dit en conférence, si on te redonne tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Et ma réponse, elle est non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Et ça, c'est le plus important, non?
Ça, c'est clair. Une autre question, est-ce que vous avez une maxime ou des mots de sagesse qui vous tiennent à cœur et que vous pourriez nous partager?
Non, pas autant que ça. Je suis pas un grand philosophe.
Pas très citation. Bah tout est possible, c'est
non,
pas mal
non,
déjà.
Non. Voilà, mais il y a une question qu'on me pose souvent. On me dit mais c'est quoi votre plus beau souvenir dans tout ce que vous avez vécu et je leur réponds que mon meilleur souvenir c'est demain parce que j'ai encore plein de trucs à vivre, j'ai encore plein de rêves dans ma tête et j'ai encore plein d'envie.
Ça, je suis sûr qu'il y a encore de belles aventures devant nous. Ça, j'en suis sûr. Et enfin, la dernière question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, inspiré, que vous recommandez peut-être autour de vous? Ça peut être tout autant de la littérature, ça peut être des BD, ça peut être évidemment votre propre livre,
vous venez de m'enlever ma vanne parce que j'allais dire justement, c'est le livre qui m'a vraiment touché, c'est Plus fort la vie, le livre de Philippe Croison, coécrit avec Emmanuel Del Seco. Donc j'ai écrit 4 bouquins, il y a Plus fort la vie, La traversée de la Manche. J'ai décidé de vivre et puis le dernier qui s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. Mais je suis pas un grand lecteur, donc j'ai écrit 4 bouquins, mais j'en lis pas beaucoup.
Mais bon, du coup, pour déjà avoir un petit peu plus encore d'informations et puis surtout beaucoup plus de détails sur tout ce que vous avez pu accomplir et puis surtout les messages que vous faites passer et puis sur le fait que tout est possible. Donc effectivement, je mettrai tous les liens vers vos livres sur le blog du podcast. Et puis au-delà de ça, Philippe, si jamais on veut vous retrouver sur le monde du web, je crois que vous êtes, bon alors vous êtes un peu partout, mais si on veut vous faire un petit coucou, vous suivre, vous féliciter, vous dire bah voilà que ce discours vous a touché la personne qui écoute, qu'est-ce qui serait le plus simple pour le faire?
J'aime bien quand vous dites je suis partout. Il y a un journaliste l'autre jour qui m'a dit ça justement. Il m'a dit on vous voit à la télé, on vous entend à la radio, vous faites des conférences, on vous voit dans un film, vous êtes dans
un feuilleton sur clair. France Télévisions. Vous avez des livres, vous êtes partout.
Et je lui ai répondu gentiment, bah, je dis j'ai réussi à me couper en quatre. Personne n'arrive pas à faire.
Oh là là.
Donc voilà, il y en a qui vivent dans leur confort de vie et qui n'imaginent pas qu'on peut se couper en quatre et qu'on peut y arriver. Donc voilà, si on me retrouve sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, et puis sur mon site internet philippecroison.com tout simplement. Donc n'hésitez pas à laisser un message et j'y répondrai avec grand plaisir.
Philippe, merci mille fois pour votre temps. C'était adorable de me consacrer cet après-midi. Et puis, je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. J'ai hâte de savoir quelles sont les prochaines aventures. Et puis,
le one-man show, ah j'ai une écriture en ce moment avec Jérémy Ferrari.
Ça va sortir quand, ça, vous pensez?
Alors, début 2021, le one-man show. Donc, un nouveau défi. Encore une fois,
c'est
l'autre jour, on m'a dit, ouais, mais t'es pas vraiment humoriste. Je dis, ouais, mais avant, j'étais pas vraiment un nageur et j'étais pas vraiment pilote automobile. Et maintenant, j'ai cette envie forte au plus profond de moi-même de rire de tout ça et transformer ça en forme d'humour. Donc rendez-vous en 2021 pour le One Man Show.
C'est clair, on refera un podcast. Merci mille fois Philippe.
Avec plaisir, merci pour ce moment de partage. À bientôt.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.